Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Anas Kazib, cheminot et syndicaliste Sudrail, porte-parole de Révolution Permanente. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Alors, Anas Kazib, le 10 novembre dernier, une grève a eu lieu à la RATP. La plupart des lignes de métro ont été affectées, le RER également. Pour quelles raisons les agents de la RATP ont-ils voulu se faire entendre? Quelles sont leurs revendications?
Je pense que c'est dans des mouvements actuels, dans cette séquence avec l'inflation, autour des salaires trop faibles. Comme on dit, tout augmente sauf les salaires. Et les camarades de la RATP ont voulu frapper un grand coup. Cette journée du 10 novembre, ça montre et ça révèle en fait toute la puissance de la classe ouvrière lorsque les travailleuses et les travailleurs décident de se mettre ensemble et de frapper fort. On voit l'impact important. Le 10 novembre, il y avait malheureusement que la RATP qui était véritablement très mobilisée. Sur les autres secteurs, dont le mien, la SNCF notamment, mon syndicat Sudrail, on n'appelait pas à cette grève du 10 novembre. Non pas parce qu'on considérerait que la question des salaires était à archiver et passer à autre chose, au contraire, il va nous falloir un véritable plan de bataille, un plan du tous ensemble, comme on dit, d'en finir avec des grèves qui parfois peuvent être des grèves corporatistes, des journées isolées de 24 heures qui mettent pas un impact suffisant. Et notamment dans plein d'entreprises, plein de secteurs, il y a cette volonté de partir sur un conflit dur, parce qu'on sait très bien que l'indexation des salaires, ça va être une bataille face au gouvernement, que dans différents endroits, l'image des raffineurs de Total aller réclamer des augmentations de salaire net de 300 ou 400 euros, eh ben, on sait très bien qu'il faut un rapport de force qui soit sur la durée. Et donc nous, aujourd'hui à la SNCF, voilà, on se dit que les journées de 24 heures, c'est intéressant lorsque ça permet d'être des journées tremplin, mais qu'en réalité, il va falloir rapidement, dans cet hiver qui va être dur, pour toutes et tous, dans lequel les loyers sont déjà en train d'augmenter, dans lequel les charges sont en train d'augmenter. À partir du 15 novembre prochain, on sait que la ristourne, comme ils l'appellent, sur les 30 centimes à la pompe vont disparaître. La ristourne de Total de 20 centimes en plus va disparaître également. Le bouclier fiscal tel qu'on a pu le connaître sur l'énergie va aussi être considérablement réduit. Donc il y a, je ne vais pas dire un alignement de planètes, mais en tout cas, il y a énormément de coordonnées qui peuvent être un terreau pour la lutte de classe cet hiver.
Est-ce que la réforme des retraites qui se prépare peut être aussi un élément mobilisateur, voire déclencheur d'une grande grève?
Je pense que la réforme des retraites, qui plus est dans cette séquence, enfin le gouvernement Macron, il sait à s'attendre, dans le sens où il y a déjà eu une mobilisation importante contre le rapport Delevoye entre la fin 2019 et la fin du mois de janvier 2020, où nous, à la SNCF et notamment la RATP, qui est toujours un peu la colonne vertébrale de ce mouvement-là, on a tenu 60 jours de grève et on a réussi à mettre en déroute le gouvernement, notamment sur système par points. Et on voit qu'ils veulent revenir par une autre porte autour de la question de l'allongement de départ à la retraite. Enfin, il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible de dire à des gens qui sont en train de dire nous, on gagne pas assez bien nos vies, le 10 du mois, on est à découvert que tout est en train d'augmenter, et de leur dire, d'une part, on va pas vous augmenter vos salaires, mais en plus de ça, on va vous demander d'aller travailler encore plus longtemps qu'avant. Ça, c'est juste pas possible. Et les instituts de sondage sont unanimes, déjà même durant la campagne présidentielle, même dans le camp d'Emmanuel Macron, dans le camp de la droite, les gens étaient contre le fait qu'ils maintiennent cette réforme des retraites et ce départ à 65 ans. On voit qu'il y a des richesses qui sont produites, qui sont créées, qu'au contraire, il faut augmenter les salaires. Moi, je donne juste un exemple. Hein. L'augmentation des salaires de 0,3%, l'organisme de suivi et de coordination de l'ensemble des systèmes de retraite, il dit 0,3% d'augmentation de salaire permettrait de faire passer considérablement en bénéfice l'ensemble des systèmes des retraites. Parce que nos retraites par répartition, elles sont le fruit de nos salaires et notamment des cotisations de ces salaires. Quelqu'un qui gagne 1500 euros et qui demain gagnerait 2000 euros, on se doute bien que la part de cotisation pour les retraites va augmenter. Donc oui, on peut faire en sorte que le système des retraites il soit largement viable. Et pour ça, il y a une solution, c'est d'augmenter les salaires. Ça va permettre dès aujourd'hui de sortir les gens des zones de découvert dans lesquelles ils sont et de permettre qu'ils puissent partir beaucoup plus tôt à la retraite.
Anas Kazib, j'en reviens à la situation de la SNCF et de la RATP. Comment expliquez-vous les dysfonctionnements actuels dans les transports en commun en Île-de-France ? Pourquoi n'arrive-t-on pas à recruter de nouveaux conducteurs de bus et de métro ?
Tout d'abord, on regrette profondément cette situation. Nous, en 2018, il y avait une loi qui s'appelait la réforme du ferroviaire, contre laquelle on s'est battu pendant 3 mois pour dénoncer justement la casse du service public ferroviaire. Et de savoir aussi qu'on est parmi les usagers les plus impactés, hein, parce que qui dit cheminot, qui dit agent RATP, on prend les transports en commun qu'on conduit, qu'on entretient, etc. Donc oui, nous aussi, parfois, on voit pour aller au boulot des trains qu'on prenait avant qui maintenant sont supprimés. Donc c'est assez une situation qui est assez chaotique, mais qui était prévisible, parce que à un moment donné, le service public, si vous ne passez votre temps qu'à retirer l'argent, qu'à désorganiser, qu'à permettre aux entreprises de commencer à casser les conditions de travail et de salaire pour ouvrir à la concurrence, à un moment donné, on se retrouve dans ces situations-là où aujourd'hui, cette pénurie, entre guillemets, elle est organisée, la pénurie de personnel, parce qu'on a des salariés par centaines, par milliers maintenant dans ces entreprises sont en train de démissionner. Parce que vous savez, à la SNCF, à la RATP, on n'avait pas des salaires mirobolants. On était même, on parle même pas de salaire dans ces métiers-là, on parle de traitement. C'est-à-dire que c'était une combinaison entre un salaire qui n'était pas extraordinaire, mais des à côté qui permettaient de se dire, bon, des 3-8, on travaille 3 week-ends sur 4 par mois, on n'assiste pas à certaines fêtes, anniversaires, mariages, etc. On travaille les fériés, on travaille pendant les vacances scolaires et autres, mais néanmoins, on avait un cadre social qui nous permettait à côté de compenser cela. Quand vous cassez le cadre social qui faisait que c'était la seule, entre guillemets, carotte qui permettait de venir travailler à des salaires aussi faibles, enfin, faut savoir que l'ensemble des grilles des collèges exécution, c'est-à-dire des métiers les plus bas à la SNCF, la RATP, sont en dessous du SMIC. C'est-à-dire qu'on a des agents qui sont recrutés à 1230, 1240 euros bruts. C'est presque 300 à 400 euros de moins que le SMIC brut. Et ben ça existe aujourd'hui dans des fleurons de l'industrie que sont la RATP ou la SNCF. Et aujourd'hui, on voit que des gens, face à l'inflation, face à l'augmentation de l'ensemble des prix, les gens n'ont pas envie de venir travailler 3 week-ends sur 4, travailler de nuit de 22h à 6h du matin pour sortir avec 1200, 1300 euros net. Et donc, c'est ça ce qui est en train d'expliquer cette situation. Et aujourd'hui, c'est nous qui en payons le plus lourd tribut, mais on voit que ça a des répercussions hyper importantes sur des usagers, des usagères qui sont aussi des travailleurs du quotidien, qui attendent 40 minutes, 45 minutes un bus, un métro, un train, et ça, c'est juste pas acceptable.
Il y a un risque de voir passer le prix du pass Navigo de 75 à 100 euros, Anas Kazib.
Oui, clairement. Enfin, c'est là encore une nouvelle parade. Tout augmente. Comme je disais, tout est en train d'augmenter. Ils prévoient et ils projettent d'augmenter non pas uniquement le pass Navigo, mais aussi les titres de transport à l'avenir. C'est-à-dire que comment ils justifient ça? Ils disent que suite à l'inflation, il faut comprendre qu'il y a des coûts de production qui ont augmenté, que maintenant les coûts d'entretien, des matériaux, etc. Pour notre matériel roulant augmente, donc c'est normal, on doit répercuter sur le prix. Au final, ce sont les usagers, les usagères des transports qui en payent le prix fort. Moi, je le dis et je le répète, pour Sudrail et pour énormément de travailleuses et travailleurs des transports publics, nous sommes pour la gratuité totale des transports, non pas uniquement des transports du quotidien, mais également les transports type TGV, TER et autres. Pourquoi ? Parce que face à ce qu'on est en train de voir toutes et tous, cette crise climatique, cette sécheresse, ces incendies qu'on a vus tout l'été, on est en train de voir qu'il y a des départements dans lesquels il y a de la rétention d'eau parce qu'il n'a pas plu. Je veux dire, même le dernier des derniers qui ne considérait pas la crise climatique comme un fait majeur de ce siècle-là, aujourd'hui, on est en train de voir que oui, ça a un impact direct sur nos vies. Et bien face à ça, nous, on est en train de dire que la gratuité des transports, c'est du pur bon sens. C'est du pur bon sens de permettre aux gens de lâcher leur voiture pour pouvoir utiliser les transports. Et ça ne va pas uniquement se faire par la gratuité des transports, ça va se faire aussi par le fait d'investir massivement, de développer, de construire des nouvelles lignes qui permettent à certaines personnes qui ne peuvent pas prendre des trains pour faire des trajets particulièrement et qui se rabattent sur la voiture, et demain de pouvoir le faire. Et dans tous les pays, et je peux prendre une ville, Dunkerque, en France qui a mis la gratuité des transports, même dans l'impact climatique, c'est-à-dire avec la réduction du nombre des émissions de carbone, ça a réduit drastiquement dans leur ville. Donc c'est du bon pour tous, et je vais vous donner même un dernier chiffre. Ce n'est pas Anascazil, ce n'est pas Sudrail, ce n'est pas Révolution Permanente qui le dit, c'est Santé Publique France. Santé Publique France, c'est 40 000 morts en France chaque année des suites de la pollution. Et vous savez, ils ont fait un relevé pendant la période du confinement, pendant ce mois dans lequel les gens n'ont pas utilisé leur voiture. Pendant un mois, Santé Publique France a noté moins 4 000 morts des suites de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc oui, il faudrait mettre la gratuité des transports, il faudrait développer, et nous on est en toute solidarité avec celles et ceux qui utilisent les transports publics, et on se battra, et on espère qu'ils se battront à nos côtés pour faire en sorte que, d'une part, le pass Navigo n'augmente pas, que les tickets n'augmentent pas, mais qu'en plus, demain on commence à arracher un service public de qualité, un service public qui soit gratuit pour toutes et tous.
Anas Kazib, tout à l'heure, vous avez évoqué l'inquiétude des Français sur la baisse de leur pouvoir d'achat, avec notamment ce bouclier tarifaire qui va continuer, mais qui va tout de même être assorti d'augmentation de l'électricité et du gaz à partir du mois de janvier. Est-ce que vous êtes inquiet en particulier pour les personnes qui vivent dans les logements sociaux ?
On est inquiet, on est inquiet à toutes parts. Vous savez, moi, je préside une commission logement, CF La Sablière. C'est un bailleur social qui est une filiale de la SNCF. C'était, il n'y a pas plus que 4 jours en arrière, 3,6% d'augmentation à partir du 1er janvier. C'est-à-dire l'ensemble des logements sociaux ICF La Sablière, déjà, on apprend comme ça en commission qu'ils vont augmenter de 3,6% que le loyer. Parce qu'à côté, ils ne savent même pas encore chiffrer l'augmentation des charges locatives. À un moment donné, lorsque je discute avec le représentant d'ICF La Sablière, je lui dis « mais vous êtes bien gentil, vous augmentez les charges, etc. mais vous voyez bien que la SNCF n'augmente pas les salaires. Comment les gens vont pouvoir payer ça ?» Donc lorsqu'on est en train d'expliquer que les loyers vont prendre quasiment 50 à 100 euros de plus, et que derrière on a des salariés précaires, des gens qui avant avaient même un salaire qui pouvait être considéré comme confortable. Il y a quelques années en arrière, quand on avait 1800, 2000 balles, on se disait bon, ça va, je suis pas un salarié précaire. Aujourd'hui, avec 1800 euros, 2000 euros, on n'arrive plus à vivre. On n'arrive plus à vivre. Il y a des couples qui ont deux salaires et qui entre les charges, les crédits, etc., les assurances, l'essence et autres, n'arrivent plus à s'en sortir correctement, sont obligés d'arrêter certaines activités, etc. Et de l'autre côté, on va avoir, moi ça me fait rigoler, on va avoir des ministres de la Culture qui vont nous dire retourner au cinéma. Mais le cinéma, c'est 13 euros. Quand on est un couple avec deux enfants, ce n'est pas possible en fait de se dire on va aller regarder un film et entre les à côté, ça va nous coûter quasiment 80 à 100 euros la sortie. Ça, c'est des choses concrètes aujourd'hui. Et donc oui, ça impacte tout le monde. Et moi, je suis inquiet d'une part parce que on voit que ça va plonger des milliers et des milliers de familles dans la pauvreté dans les semaines et les mois à venir. Mais je suis aussi assez enthousiaste, entre guillemets, à l'idée de me dire que quand je vois la vague de grève importante, radicale, à l'image de celle des raffineurs, à celle des centrales nucléaires et autres, et un certain nombre, je veux dire, il n'y a pas que les grosses corporations qui se mettent et qui se mobilisent, il y a des travailleurs de Géodis, depuis le 18 octobre dernier, ça va faire bientôt un mois, qui sont mobilisés, ce sont des salariés qui touchent le SMIC. C'est eux qui permettaient de transporter les masques, de transporter le matériel médical et autres. Et ben ces gens-là aujourd'hui, les premiers de cordée comme on les appelait, et ben c'est les derniers. Ce sont ceux qui à qui on refuse des augmentations de salaire et ils ont des patrons qui ont pris 300 000 euros de primes en 2022 sur les bénéfices. Et tout ça c'est inacceptable. Et moi je suis enthousiaste par rapport à cette situation parce que peut-être que on va connaître une ère pré-gilet jaune ou même peut-être même pré-gilet jaune XXL qui combinerait ces secteurs périurbains, cette classe moyenne déclassée comme on l'a appelé, combinée au mouvement ouvrier organisé, à la SNCF, à la RATP, aux raffineurs, aux dockers, etc. Et sincèrement, je pense que c'est la solution parce qu'on a des patrons et un gouvernement sur lequel on voit très bien n'en ont que faire. Ils redistribuent les dividendes, ils redistribuent l'argent uniquement entre eux, mais derrière, pour celles et ceux qui font le travail au quotidien, que ça soit le service public ou que ça soit les métiers de la sécurité, de la santé, du nettoyage et autres, et j'en passe, ces personnes-là, nous, on touche rien du tout. Donc, il va falloir se bouger, sinon on va juste vivre cette inflation-là, vivre la pauvreté, et ça, c'est pas acceptable.
Anas Kazib, j'aimerais vous interroger sur l'Ocean Viking qui a fini par accoster à Toulon avec 230 migrants. Le navire est ensuite reparti. Ce débarquement a eu lieu après un bras de fer entre la France et l'Italie. Que vous inspire cet épisode?
On a des États qui sont capables de laisser femmes, enfants, hommes, personnes âgées, personnes malades et autres sur un cargo. Je veux dire que ce n'est pas un bateau de croisière Costa Croisière ou autre avec des toboggans et des piscines à l'intérieur. C'est un bateau de sauvetage humanitaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cabine, il n'y a pas de lit. De l'autre côté, ça nous fait penser à comment les Ukrainiens ont été traités. Je veux dire, par là, nous, on a encouragé le fait qu'il faut permettre à celles et ceux qui vivent notamment la guerre de pouvoir venir se réfugier. On a pu le faire. On a même pu, pour ça, pour dire, depuis la SNCF, on a donné gratuitement des tickets pour pouvoir circuler et même des billets de TGV gratuits aux Ukrainiens et aux Ukrainiens. Et je m'en félicite. C'est très bien d'avoir fait ça, même de leur avoir trouvé des logements et du boulot. Mais on voit qu'il y a un deux poids deux mesures. Il y a un deux poids deux mesures en fonction de la couleur de peau que vous avez. C'est-à-dire que si vous êtes européen, si vous êtes blanc de peau, eh ben on vous accueille en grande pompe dans le pays. Mais de l'autre côté, lorsqu'on est racisé, lorsqu'on a la peau noire, en fait, eh ben on vous laisse crever dans un bateau pendant 19 jours. Et oui, c'est sous la contrainte et la pression, parce que le gouvernement d'Emmanuel Macron, notamment dans toute la séquence de cette phrase raciste et xénophobe du député de Rassemblement National qu'il retourne en Afrique, avec un S ou non, le gouvernement voit qu'il a pu réagir en essayant de donner une pseudo-sanction, mais par contre, il a attendu une semaine de plus avant de se décider à accueillir ces migrantes et ces migrants, parce qu'on n'est pas dupes. Lorsqu'on a un Gérald Darmanin qui, au quotidien, je veux dire, marche, c'est même pas marche sur les plates-bandes du Rassemblement National, il les double. Il est à 100 coudées devant le Rassemblement National aujourd'hui en termes de sécuritaire et de dureté contre l'immigration. Même quand on voit toute la politique islamophobe contre l'imam Hassani Kyusen, qui, je veux dire, est même parti de lui-même en Belgique et qu'on met un mandat d'arrêt international pour le faire revenir, pour l'expulser, pour avoir des images en menottes montant dans un avion, on voit à quel point ce gouvernement d'Emmanuel Macron, avec Darmanin qui est le maître chanteur de la lutte contre les immigrés, et ben à un moment donné, on voit que tout ça, ça a des répercussions. Et je le répète, les gens, ils ne partent pas de leur pays de gaieté de cœur. S'ils partent, c'est parce qu'ils sont dans une misère profonde. Et justement, ce sont des pays dans lesquels on a des patrons français, des Patrick Pouyanné de chez Total, des Bolloré et autres, qui pillent l'Afrique. Moi, je suis d'origine marocaine, j'ai eu mes parents récemment, pas une goutte de pluie au Maroc, pas une goutte de pluie. C'est-à-dire que l'ensemble des fruits, des légumes et autres augmentent. On veut quoi? On veut que ces gens-là, ils soient affamés? Ou bien on accepte de les accueillir? Et donc, c'est pas avec celles et ceux qui mènent ces politiques anti-immigration et qui, de l'autre côté, sont bien contentes et contents d'aller piller l'Afrique pour faire en sorte que le PIB français, le PIB italien, anglais et autres continuent à augmenter. Il va falloir lutter, les affronter, parce que de la même manière, ce sont ceux qui font qu'aujourd'hui on vit l'inflation en tant que travailleuses et travailleurs en France, ce sont les mêmes qui derrière bloquent l'Océan Viking. Et il va falloir une bataille, moi je l'espère, en tant que militant internationaliste et révolutionnaire, il va falloir qu'il y ait une bataille du tous ensemble, parce que c'est pas possible que les exploités et les opprimés à travers la planète, ils vivent de la même manière cette oppression du système.
Merci Anas Kazib. Je rappelle que vous êtes cheminot et syndicaliste Sudrail et porte-parole de Révolution Permanente. Bonsoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.